Corée, chapitre 3. Maxime resta au collège de Plassans jusqu'aux vacances de 1854. Il avait 13 ans et quelques mois et venait d'achever sa cinquième. Ce fut alors que son père se décida à le faire venir à Paris. Il songeait qu'un fils de cet âge le poserait, l'installerait définitivement dans son rôle de veuf remarié, riche et sérieux. Lorsqu'il annonça son projet à René, à l'égard de laquelle il se piquait d'une extrême galanterie, elle lui répondit négligemment « C'est cela, faites venir le gamin, il nous amusera un peu. Le matin, on s'ennuie à mourir. » Le gamin arriva 8 jours après. C'était déjà un grand galopin fluet, à figure de fille, l'air délicat et effronté, d'un blond très doux. Mais comme il était fagoté, grand Dieu! Tondu jusqu'aux oreilles, les cheveux si ras que la blancheur du crâne se trouvait à peine couverte d'une ombre légère. Il avait un pantalon trop court, des souliers de charretier, une tunique affreusement râpée, trop large, et qui le rendait presque bossu. Dans cet accoutrement, surpris des choses nouvelles qu'il voyait, il regardait autour de lui, sans timidité d'ailleurs, de l'air sauvage et rusé d'un enfant précoce, hésitant à se livrer du premier coup. Un domestique venait de l'amener de la gare, et il était dans le grand salon, ravi par l'or de l'ameublement et du plafond, profondément heureux de ce luxe au milieu duquel il allait vivre, lorsque René, qui revenait de chez son tailleur, entra comme un coup de vent. Elle jeta son chapeau et le burnou blanc qu'elle avait mis sur ses épaules pour se protéger contre le froid déjà vif. Elle apparut à Maxime, stupéfait d'admiration, dans tout l'éclat de son merveilleux costume. L'enfant la crut déguisée. Elle portait une délicieuse jupe de faille bleue à grand volant, sur laquelle était jetée une sorte d'habit de garde française de soie gris tendre. Les pans de l'habit, doublés de satin bleu plus foncé que la taille du jupon, étaient galamment relevés et retenus par des nœuds de ruban. Les parements des manches plates, les grands revers du corsage, s'élargissaient garnis du même satin. Et, comme assaisonnement suprême, comme pointe risquée d'originalité, de gros boutons imitant le saphir, pris dans des rosettes azur, descendaient le long de l'habit sur 2 rangées. C'était laid et adorable. Quand René aperçut Maxime, « C'est le petit, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle au domestique, surprise de le voir aussi grand qu'elle. L'enfant la dévorait du regard. Cette dame, si blanche de peau, dont on apercevait la poitrine dans l'entrebâillement d'une chemisette plissée, cette apparition brusque et charmante, avec sa coiffure haute, ses fines mains gantées, ses petites bottes d'homme dont les talons pointus s'enfonçaient dans le tapis, le ravissait, lui semblait la bonne fée de cet appartement tiède et doré. Il se mit à sourire et il fut tout juste assez gauche pour garder sa grâce de gamin. « Tiens, il est drôle !» s'écria René. « Mais quelle horreur ! Comme on lui a coupé les cheveux !»« Écoute, mon petit ami, ton père ne rentrera sans doute que pour le dîner et je vais être obligée de t'installer. Je suis votre belle maman, monsieur. Veux-tu m'embrasser ?»« Je veux bien, » répondit carrément Maxime. Et il baisa la jeune femme sur les 2 joues en la prenant par les épaules, ce qui chiffonna un peu l'habit de garde française. Elle se dégagea, riant, disant « Mon Dieu, qu'il est drôle, le petit tondu !» Elle revint à lui, plus sérieuse. « Nous serons amis, n'est-ce pas ? Je veux être une mère pour vous. Je réfléchissais à cela en attendant mon tailleur qui est en conférence, et je me disais que je devais me montrer très bonne et vous élever tout à fait bien. Ce sera gentil !» Maxime continuait à la regarder, de son regard bleu de fille hardie. Et brusquement, « Quel âge avez-vous » demanda-t-il. « Mais on ne demande jamais cela !» s'écria-t-elle en joignant les mains. « Il ne sait pas, le petit malheureux. Il faudra tout lui apprendre. Heureusement que je puis encore dire mon âge. J'ai 21 ans. Moi, j'en aurai bientôt 14. Vous pourriez être ma sœur. » Il n'acheva pas. Mais son regard ajoutait qu'il s'attendait à trouver la seconde femme de son père beaucoup plus vieille. Il était tout près d'elle. Il lui regardait le cou avec tant d'attention qu'elle finit presque par rougir. Sa tête folle, d'ailleurs, tournait, ne pouvant s'arrêter longtemps sur le même sujet. Et elle se mit à marcher, à parler de son tailleur, oubliant qu'elle s'adressait à un enfant. « J'aurais voulu être là pour vous recevoir, mais imaginez-vous que Worms m'a apporté ce costume ce matin. Je l'essaie et je le trouve assez réussi. Il a beaucoup de chic, n'est-ce pas ?» Elle s'était plantée devant une glace. Maxime allait et venait derrière elle pour la voir sur toutes les faces. « Seulement, continua-t-elle, en mettant l'habit, je me suis aperçue qu'il faisait un gros pli, là, sur l'épaule gauche. Vous voyez ? C'est très laid, ce pli. Il semble que j'ai une épaule plus haute que l'autre. » Il s'était approché. Il passait son doigt sur le pli, comme pour l'aplatir, et sa main de collégien vicieux paraissait s'oublier en cet endroit avec un certain bien-aise. « Ma foi, continua-t-elle, je n'ai pu y tenir. J'ai fait atteler et je suis allée dire à Worms ce que je pensais de son inconcevable légèreté. Il m'a promis de réparer cela. » Puis, elle resta devant la glace, se contemplant toujours, se perdant dans une subite rêverie. Elle finit par poser un doigt sur ses lèvres, d'un air d'impatience méditative, et, tout bas, comme se parlant à elle-même, « Il manque quelque chose. Bien sûr qu'il manque quelque chose. » Alors, d'un mouvement prompt, elle se tourna, se planta devant Maxime, auquel elle demanda « Est-ce que c'est vraiment bien ? Vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose ? Un rien ? Un nœud quelque part ?» Le collégien, rassuré par la camaraderie de la jeune femme, avait repris tout l'aplomb de sa nature effrontée. Il s'éloigna, se rapprocha, cligna les yeux en murmurant « Non, non, il ne manque rien, c'est très joli, je trouve plutôt qu'il y a quelque chose de trop. » Il rougit un peu malgré son audace, s'avança encore et, traçant du bout du doigt un angle aigu sur la gorge de René, « Moi, voyez-vous, continua-t-il, j'échancrerai comme ça cette dentelle et je mettrai un collier avec une grosse croix. » Elle battit des mains rayonnantes. « C'est cela ! C'est cela ! » cria-t-elle. « J'avais la grosse croix sur le bout de la langue. » Elle écarta la chemisette, disparut pendant 2 minutes, revint avec le collier et la croix. Et, se replaçant devant la glace d'un air de triomphe, « Oh ! Complet, tout à fait complet, murmura-t-elle. Mais il n'est pas bête du tout, le petit tondu. Tu habillais donc les femmes dans ta province ? Décidément, nous serons bons amis. Mais il faudra m'écouter. D'abord, vous laisserez pousser vos cheveux, et vous ne porterez plus cette affreuse tunique. Puis, vous suivrez fidèlement mes leçons de bonne manière. Je veux que vous soyez un joli jeune homme. » « Mais bien sûr, dit naïvement l'enfant, puisque papa est riche maintenant et que vous êtes sa femme. » Elle eut un sourire, et avec sa vivacité habituelle, « Alors, commençons par nous tutoyer. Je te dis tu, je dis vous, c'est bête. Tu m'aimeras bien. » « Je t'aimerai de tout mon cœur, répondit-il avec une effusion de galopin en bonne fortune. » Telle fut la première entrevue de Maxime et de René. L'enfant n'alla au collège qu'un mois plus tard. Sa belle-mère, les premiers jours, joua avec lui comme avec une poupée. Elle le décrassa de sa province, et il faut dire qu'il y mit une bonne volonté extrême. Quand il parut, habillé de neuf des pieds à la tête par le tailleur de son père, elle poussa un cri de surprise joyeuse. « Il était joli comme un cœur !» Ce fut son expression. Ses cheveux seuls mettaient à pousser une lenteur désespérante. La jeune femme disait d'ordinaire que tout le visage est dans la chevelure. Elle soignait la sienne avec dévotion. Longtemps, la couleur l'en avait désolée, cette couleur particulière d'un jaune tendre qui rappelait celle du beurre fin. Mais quand la mode des cheveux jaunes arriva, elle fut charmée, et pour faire croire qu'elle ne suivait pas la mode bêtement, elle jura qu'elle se teignait tous les mois. Les 13 ans de Maxime étaient déjà terriblement savants. C'était une de ces natures frêles et hâtives dans lesquelles les sens poussent de bonne heure. Le vice en lui parut même avant l'éveil des désirs. À 2 reprises, il faillit se faire chasser du collège. René, avec des yeux habitués aux grâces provinciales, avait vu que, tout fagoté qu'il était, le petit tondu, comme elle le nommait, souriait, tournait le cou, avançait les bras d'une façon gentille, de cet air féminin des demoiselles de collège. Il se soignait beaucoup les mains, qu'il avait minces et longues. Si ses cheveux restaient courts, par ordre du proviseur, ancien colonel du génie, il possédait un petit miroir qu'il tirait de sa poche pendant les classes, qu'il posait entre les pages de son livre et dans lequel il se regardait des heures entières, s'examinant les yeux, les gencives, se faisant des mines, s'apprenant des coquetteries. Ses camarades se pendaient à sa blouse comme à une jupe, et il se serrait tellement qu'il avait la taille mince, le balancement de hanches d'une femme faite. La vérité était qu'il recevait autant de coups que de caresses. Le collège de Plassans, un repaire de petits bandits comme la plupart des collèges de province, fut ainsi un milieu de souillure dans lequel se développa singulièrement ce tempérament neutre, cette enfance qui apportait le mal. On ne savait de quel inconnu héréditaire. L'âge allait heureusement le corriger. Mais la marque de ces abandons d'enfant, cette effémination de tout son être, cette heure où il s'était cru fille, devait rester en lui, le frapper à jamais dans sa virilité. René l'appelait « mademoiselle », sans savoir que, 6 mois auparavant, elle aurait dit juste. Il lui semblait très obéissant, très aimant, et même elle se trouvait souvent gênée par ses caresses. Il avait une façon d'embrasser qui chauffait la peau. Mais ce qui la ravissait, c'était son espièglerie. Il était drôle au possible, hardi, parlant déjà des femmes avec des sourires, tenant tête aux amis de René, à la chère Adeline, qui venait d'épouser M. d'Espanay, et à la grosse Suzanne, marié tout récemment au grand industriel Hafner. Il eut, à 14 ans, une passion pour cette dernière. Il avait pris sa belle-mère pour confidente, et celle-ci s'amusait beaucoup. « Moi, j'aurais préféré Adeline, disait-elle. Elle est plus jolie. »« Peut-être, répondait le galopin. Mais Suzanne est bien plus grosse. J'aime les belles femmes. Si tu étais gentille, tu lui parlerais pour moi. » René riait. Sa poupée, ce grand gamin aux mines de fille, lui semblait impayable depuis qu'elle était amoureuse. Il vint un moment où Madame Hafner dut se défendre sérieusement. D'ailleurs, ces dames encourageaient Maxime par leurs rires étouffés, leurs demi-mots, les attitudes coquettes qu'elles prenaient devant cet enfant précoce. Il entrait là une pointe de débauche fort aristocratique. Toutes trois, dans leur vie tumultueuse, brûlée par la passion, s'arrêtaient à la dépravation charmante du galopin, comme à un piment original et sans danger qui réveillait leur goût. Elle lui laissait toucher leurs robes, frôler leurs épaules de ses doigts lorsqu'il les suivait dans l'antichambre, pour jeter sur elle leur sortie de bal. Elle se le passait de main en main, riant comme des folles, quand il leur baisait les poignets du côté des veines, à cette place où la peau est si douce. Puis elle se faisait maternelle et lui enseignait doctement l'art d'être bel homme et de plaire aux dames. C'était leur joujou, un petit homme d'un mécanisme ingénieux qui embrassait, qui faisait la cour, qui avait les plus aimables vices du monde, mais qui restait un joujou, un petit homme de carton qu'on ne craignait pas trop. Assez cependant pour avoir sous sa main enfantine un frisson très doux. À la rentrée des classes, Maxime alla au lycée Bonaparte. C'est le lycée du beau monde, celui que Saccard devait choisir pour son fils. L'enfant, si mou, si léger qu'il fût, avait alors une intelligence très vive, mais il s'appliqua à tout autre chose qu'aux études classiques. Il fut cependant un élève correct qui ne descendit jamais dans la bohème des cancres et qui demeura parmi les petits messieurs convenables et bien mis dont on ne dit rien. Il ne lui resta de sa jeunesse qu'une véritable religion pour la toilette. Paris lui ouvrit les yeux, en fit un beau jeune homme, pincé dans ses vêtements, suivant les modes. Il était le Brummel de sa classe. Il s'y présentait comme dans un salon, chaussé finement, ganté juste, avec des cravates prodigieuses et des chapeaux ineffables. D'ailleurs, il se trouvait là une vingtaine, formant une aristocratie, s'offrant à la sortie des Havanes dans des porte-cigares à fermoir d'or, faisant porter leur paquet de livres par un domestique en livrée. Maxime avait déterminé son père à lui acheter un tilbury et un petit cheval noir qui faisait l'admiration de ses camarades. Il conduisait lui-même, ayant sur le siège de derrière un valet de pied, les bras croisés, qui tenait sur ses genoux le cartable du collégien, un vrai portefeuille de ministre en chagrin marron. Et il fallait voir avec quelle légèreté, quelle science et quelle correction d'allure, il venait en 10 minutes de la rue de Rivoli à la rue du Havre, arrêtait net son cheval devant la porte du lycée, jetait la bride au valet en disant « Jacques, à 4h30, n'est-ce pas ?» Les boutiquiers voisins étaient ravis de la bonne grâce de ce blondin qu'ils voyaient régulièrement 2 fois par jour arriver et repartir dans sa voiture. Au retour, il reconduisait parfois un ami qu'il mettait à sa porte. Les 2 enfants fumaient, regardaient les femmes, éclaboussaient les passants, comme s'ils fussent revenus des courses. Petit monde étonnant, couvé de fats et d'imbéciles, qu'on peut voir chaque jour rue du Havre, correctement habillés, avec leurs vestons de gandin, jouer les hommes riches et blasés, tandis que la bohème du lycée, les vrais écoliers, arrivent criant et se poussant, tapant le pavé avec leurs gros souliers, leurs livres pendus derrière le dos au bout d'une courroie. René, qui voulait prendre au sérieux son rôle de mère et d'institutrice, était enchantée de son élève. Elle ne négligeait rien, il est vrai, pour parfaire son éducation. Elle traversait alors une heure pleine de dépit et de larmes. Un amant l'avait quittée avec scandale aux yeux de tout Paris pour se mettre avec la duchesse de Sternik. Elle rêva que Maxime serait sa consolation. Elle se vieillit, s'ingénia pour être maternelle et devint le mentor le plus original qu'on pût imaginer. Souvent, le tilbury de Maxime restait à la maison. C'était René, avec sa grande calèche, qui venait prendre le collégien. Ils cachaient le portefeuille marron sous la banquette, ils allaient au bois, alors dans tout son œuf. Là, elle lui faisait un cours de haute élégance. Elle lui nommait le tout Paris impérial, gras, heureux, encore dans l'extase de ce coup de baguette qui changeait les mœurs de faim et les goujats de la veille en grand seigneur, en millionnaires soufflant et se pâmant sous le poids de leurs caisses. Mais l'enfant la questionnait surtout sur les femmes, et comme elle était très libre avec lui, elle lui donnait des détails précis. Madame de Guindes était bête, mais admirablement faite. La comtesse Vanska, fort riche, avait chanté dans les cours avant de se faire épouser par un Polonais qui la battait, disait-on. Quant à la marquise d'Espanay et à Suzanne Hafner, elles étaient inséparables. Et, bien qu'elles fussent ses amies intimes, René ajoutait, en pinçant les lèvres, comme pour ne pas en dire davantage, qu'il courait de bien vilaines histoires sur leur compte. La belle madame de Lawrence était aussi horriblement compromettante, mais elle avait de si jolis yeux, et tout le monde, en somme, savait que, quant à elle, elle était irréprochable, bien qu'un peu trop mêlée aux intrigues des pauvres petites femmes qui la fréquentaient. Madame d'Ast, Madame Tessière, la baronne de Ménoil. Maxime voulut avoir le portrait de ces dames. Il en garnit un album qui resta sur la table du salon. Pour embarrasser sa belle-maman, avec cette ruse vicieuse qui était le trait dominant de son caractère, il lui demandait des détails sur les filles, en feignant de les prendre pour des femmes du vrai monde. René, morale et sérieuse, disait que c'était d'affreuses créatures et qu'il devait les éviter avec soin. Puis elle s'oubliait et parlait d'elles comme de personnes qu'elle eût connues intimement. Un des grands régals de l'enfant était encore de la mettre sur le chapitre de la duchesse de Sternik. Chaque fois que sa voiture passait, au bois à côté de la leur, il ne manquait pas de nommer la duchesse avec une sournoiserie méchante, un regard en dessous, prouvant qu'il connaissait la dernière aventure de René. Celle-ci, d'une voix sèche, déchirait sa rivale. Comme elle vieillissait, la pauvre femme! Elle se maquillait, elle avait des amants cachés au fond de toutes ses armoires. Elle s'était donnée à un chambellan pour entrer dans le lit impérial. Et elle ne tarissait pas, tandis que Maxime, pour l'exaspérer, trouvait Madame de Sternik délicieuse. De telles leçons développaient singulièrement l'intelligence du collégien, d'autant plus que la jeune institutrice les répétait partout, au bois, au théâtre, dans les salons. L'élève devint très fort. Ce que Maxime adorait, c'était de vivre dans les jupes, dans les chiffons, dans la poudre de riz des femmes. Il restait toujours un peu fille, avec ses mains effilées, son visage imberbe, son cou blanc et potelé. René le consultait gravement sur ses toilettes. Il connaissait les bons faiseurs de Paris, jugeait chacun d'eux d'un mot, parlait de la saveur des chapeaux d'un tel et de la logique des robes de tel autre. À 17 ans, il n'y avait pas une modiste qu'il n'eût approfondie, pas un bottier dont il n'eût étudié et pénétré le cœur. Cet étrange avorton, qui, pendant les classes d'anglais, lisait les prospectus que son parfumeur lui adressait tous les vendredis, aurait soutenu une thèse brillante sur le tout Paris mondain, clientèle et fournisseurs compris, à l'âge où les gamins de province n'osent pas encore regarder leur bonne en face. Souvent, quand il revenait du lycée, il rapportait dans son tilbury un chapeau, une boîte de savon, un bijou, commandé la veille par sa belle-mère. Il avait toujours quelques bouts de dentelle musquée qui traînaient dans ses poches. Mais sa grande partie était d'accompagner René chez l'illustre Worms, le tailleur de génie, devant lequel les reines du Second Empire se tenaient à genoux. Le salon du grand homme était vaste, carré, garni de larges divans. Il y entrait avec une émotion religieuse. Les toilettes ont certainement une odeur propre. La soie, le satin, le velours, les dentelles avaient marié leurs arômes légers à ceux des chevelures et des épaules ambrées. Et l'air du salon gardait cette tiédeur odorante cet encens de la chair et du luxe qui changeait la pièce en une chapelle consacrée à quelque secrète divinité. Souvent, il fallait que René et Maxime fissent antichambre pendant des heures. Il y avait là une vingtaine de solliciteuses, attendant leur tour, trempant des biscuits dans des verres de madère, faisant collation sur la grande table du milieu, où traînaient des bouteilles et des assiettes de petits fours. Ces dames étaient chez elles, parlaient librement, et lorsqu'elles se pelotonnaient autour de la pièce, on aurait dit un vol blanc de lesbiennes qui se serait abattu sur les divans d'un salon parisien. Maxime, qu'elles toléraient et qu'elles aimaient pour son air de fille, était le seul homme admis dans le cénacle. Il y goûtait des jouissances divines. Il glissait le long des divans comme une couleuvre agile. On le retrouvait sous une jupe, derrière un corsage, entre deux robes, où il se faisait tout petit, se tenant bien tranquille, respirant la chaleur parfumée de ses voisines, avec des mines d'enfant de cœur avalant le bon Dieu. « Il se fourre partout, ce petit-là !» disait la baronne de Meynold en lui tapotant les joues. Il était si fluet que ces dames ne lui donnaient guère plus de 14 ans. Elles s'amusèrent à le griser avec le madère de l'illustre Worms. Il leur dit des choses stupéfiantes qui les firent rire aux larmes. Toutefois, ce fut la marquise d'Espanay qui trouva le mot de la situation. Comme on découvrit un jour Maxime dans un angle des divans, derrière son dos, « Voilà un garçon qui aurait dû naître fille !» murmura-t-elle. À le voir si rose, si rougissant, si pénétré du bien-être qu'il avait éprouvé dans son voisinage. Puis, lorsque le grand Worms recevait enfin René, Maxime pénétrait avec elle dans le cabinet. Il s'était permis de parler 2 ou 3 fois pendant que le maître s'absorbait dans le spectacle de sa cliente, comme les pontifes du beau veulent que Léonard de Vinci l'ait fait devant la Joconde. Le maître avait daigné sourire de la justesse de ses observations. Il faisait mettre René debout devant une glace qui montait du parquet au plafond, se recueillait avec un froncement du sourcil, pendant que la jeune femme, émue, retenait son haleine pour ne pas bouger. Et, au bout de quelques minutes, le maître, comme pris et secoué par l'inspiration, peignait à grands traits saccadés le chef-d'œuvre qu'il venait de concevoir, s'écriait en phrases sèches « Robe Montespan en faille cendrée, la traîne dessinant devant une basque arrondie, gros nœud de satin gris la relevant sur les hanches, enfin, tablier bouillonné de tulle gris-perle, les bouillonnés séparés par des bandes de satin gris. » Il se recueillit encore, paraissait descendre tout au fond de son génie, et, avec une grimace triomphante de pythonis sur son trépied, il achevait. « Nous poserons dans les cheveux, sur cette tête rieuse, le papillon rêveur de Psyché aux ailes d'azur changeant. » Mais d'autres fois, l'inspiration était rétive. L'illustre Worms l'appelait vainement, concentrait ses facultés en pure perte. Il torturait ses sourcils, devenait livide, prenait entre ses mains sa pauvre tête qu'il branlait avec désespoir et, vaincu, se jetant dans un fauteuil, « Non, murmurait-il d'une voix dolente, « Non, pas aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ces dames sont indiscrètes. La source est tarie. » Et il mettait René à la porte en répétant « Pas possible, pas possible, chère dame. Vous repasserez un autre jour. Je ne vous sens pas ce matin. » La belle éducation que recevait Maxime eut un premier résultat. À 17 ans, le gamin séduisit la femme de chambre de sa belle-mère. Le pis de l'histoire fut que la chambrière devint enceinte. Il fallut l'envoyer à la campagne avec le marmot et lui constituer une petite rente. René resta horriblement vexé de l'aventure. Saccard ne s'en occupa que pour régler le côté pécuniaire de la question. Mais la jeune femme gronda vertement son élève. Lui, dont elle voulait faire un homme distingué, se compromettre avec une telle fille! Quel début ridicule et honteux! Quelle fredaine inavouable! Encore s'il s'était lancé avec une de ces dames! Parbleu! Répondit-il tranquillement. Et si ta bonne amie Suzanne avait voulu, c'est elle qui serait allée à la campagne. Oh, le polisson! Murmura-t-elle, désarmée, égayée par l'idée de voir Suzanne se réfugiant à la campagne avec une rente de 1200 francs. Puis, une pensée plus drôle lui vint, et, oubliant son rôle de mère irritée, poussant des rires perlés qu'elle retenait entre ses doigts, elle balbutia en le regardant du coin de l'œil. « Dis donc, c'est Adeline qui t'en aurait voulu et qui lui aurait fait des scènes !» Elle n'acheva pas. Maxime riait avec elle. Telle fut la belle chute que fit la morale de René en cette aventure. Cependant, Aristide Saccard ne s'inquiétait guère des deux enfants, comme il nommait son fils et sa seconde femme. Il leur laissait une liberté absolue, heureux de les voir bons amis, ce qui emplissait l'appartement d'une gaieté bruyante. Singulier appartement que ce premier étage de la rue de Rivoli. Les portes y battaient toute la journée. Les domestiques y parlaient haut. Le luxe neuf et éclatant en était traversé continuellement par des courses de jupes énormes et volantes, par des processions de fournisseurs, par le tohu-bohu des amis de René, des camarades de Maxime et des visiteurs de Saccard. Ce dernier recevait de 9h à 11h le plus étrange monde qu'on pût voir. Sénateurs et clercs d'huissier, duchesses et marchandes à la toilette, toute l'écume que les tempêtes de Paris jetaient le matin à sa porte. Robes de soie, jupes sales, blouses, habits noirs, qu'il accueillait du même ton pressé, des mêmes gestes impatients et nerveux. Il bâclait les affaires en deux paroles, résolvait 20 difficultés à la fois et donnait les solutions en courant. On eût dit que ce petit homme remuant, dont la voix était très forte, se battait dans son cabinet avec les gens, avec les meubles, culbutait, se frappait la tête au plafond pour en faire jaillir les idées et retombait, toujours victorieux, sur ses pieds. Puis, à 11h, il sortait. On ne le voyait plus de la journée. Il déjeunait dehors, souvent même il y dînait. Alors, la maison appartenait à René et à Maxime. Ils s'emparaient du cabinet du père, ils y déballaient les cartons des fournisseurs et les chiffons traînaient sur les dossiers. Parfois, des gens graves attendaient une heure à la porte du cabinet, pendant que le collégien et la jeune femme discutaient un nœud de ruban, assis au deux bouts du bureau de Saccard. René faisait atteler 10 fois par jour. Rarement on mangeait ensemble. Sur les 3, 2 couraient, s'oubliaient, ne revenaient qu'à minuit. Appartement de tapage, d'affaires et de plaisirs, où la vie moderne, avec son bruit d'or sonnant, de toilettes froissées, s'engouffrait comme un coup de vent. Aristide Saccard avait enfin trouvé son milieu. Il s'était révélé grand spéculateur, brasseur de millions. Après le coup de maître de la rue de la Pépinière, il se lança hardiment dans la lutte qui commençait à semer Paris d'épaves honteuses et de triomphes fulgurants. D'abord, il joua à coup sûr, répétant son premier succès, achetant les immeubles qu'il savait menacer de la pioche et employant ses amis pour obtenir de grosses indemnités. Il vint un moment où il eut 5 ou 6 maisons, ces maisons qu'il regardait si étrangement autrefois, comme des connaissances à lui lorsqu'il n'était qu'un pauvre agent voyé. Mais c'était là l'enfance de l'art. Quand il avait usé les baux, comploté avec les locataires, volé l'État et les particuliers, la finesse n'était pas grande et il pensait que le jeu ne valait pas la chandelle. Aussi mit-il bientôt son génie au service de besognes plus compliquées. Saccard inventa d'abord le tour des achats d'immeubles faits sous le manteau pour le compte de la ville. Une décision du Conseil d'État créait à cette dernière une situation difficile. Elle avait acheté à l'amiable un grand nombre de maisons, espérant user les baux et congédier les locataires sans indemnité. Mais ces acquisitions furent considérées comme de véritables expropriations et elle dut payer. Ce fut alors que Saccard offrit d'être le prête-nom de la ville. Il achetait, usait les baux et, moyennant un pot de vin, livrait l'immeuble au moment fixé. Et même, il finit par jouer double jeu. Il achetait pour la ville et pour le préfet. Quand l'affaire était par trop tentante, il escamotait la maison. L'État payait. On récompensa ses complaisances en lui concédant des bouts de rue, des carrefours projetés, qu'il rétrocédait avant même que la voie nouvelle fût commencée. C'était un jeu féroce. On jouait sur les quartiers à bâtir comme on joue sur un titre de rente. Certaines dames, de jolies filles, amies intimes de hauts fonctionnaires, étaient de la partie. Une d'elles, dont les dents blanches sont célèbres, a croqué à plusieurs reprises des rues entières. Saccard s'affamait, sentait ses désirs s'accroître à voir ce ruissellement d'or qui lui glissait entre les mains. Il lui semblait qu'une mer de pièces de 20 francs s'élargissait autour de lui. De lacs devenaient océans, emplissaient l'immense horizon avec un bruit de vagues étranges, une musique métallique qui lui chatouillait le cœur. Et il s'aventurait, nageur plus hardi chaque jour, plongeant, reparaissant, tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre, traversant cette immensité par les temps clairs et par les orages, comptant sur ses forces et son adresse pour ne jamais aller au fond. Paris s'abîmait alors dans un nuage de plâtre. Les temps prédits par Saccard sur les buttes Montmartre étaient venus. On taillait la cité à coups de sabre, et il était de toutes les entailles, de toutes les blessures. Il avait des décombres à lui aux quatre coins de la ville. Rue de Rome, il fut mêlé à cette étonnante histoire du trou qu'une compagnie creusa pour transporter 5 ou 6 000 mètres cubes de terre et faire croire à des travaux gigantesques, et conduit ensuite rebouché en rapportant la terre de Saint-Ouen lorsque la compagnie eut fait faillite. Lui s'en tira la conscience nette, les poches pleines, grâce à son frère Eugène qui voulut bien intervenir. À Chaillot, il aida à éventrer la butte, à la jeter dans un bas-fond pour faire passer le boulevard qui va de l'Arc de Triomphe au pont de l'Alma. Du côté de Passy, ce fut lui qui eut l'idée de semer les déblais du Trocadéro sur le plateau, de sorte que la bonne terre se trouve aujourd'hui à 2 mètres de profondeur et que l'herbe elle-même refuse de pousser dans ses gravats. On l'aurait retrouvé sur 20 points à la fois, à tous les endroits où il y avait quelque obstacle insurmontable, un déblai dont on ne savait que faire, un remblai qu'on ne pouvait exécuter, un bon amas de terre et de plâtras où s'impatientait la hâte fébrile des ingénieurs, que lui fouillait de ses ongles, et dans lequel il finissait toujours par trouver quelque pot de vin ou quelque opération de sa façon. Le même jour, il courait des travaux de l'Arc du Triomphe à ceux du boulevard Saint-Michel, des déblais du boulevard Malesherbes au remblai de Chaillot, traînant avec lui une armée d'ouvriers, d'huissiers, d'actionnaires, de dupes et de fripons. Mais sa gloire la plus pure était le crédit viticole qu'il avait fondé avec Toutain Laroche. Celui-ci s'en trouvait le directeur officiel. Lui ne paraissait que comme membre du conseil de surveillance. Eugène, en cette circonstance, avait encore donné un bon coup de main à son frère. Grâce à lui, le gouvernement autorisa la compagnie et la surveilla avec une grande bonhomie. En une délicate circonstance, comme un journal mal-pensant se permettait de critiquer une opération de cette compagnie, le Moniteur alla jusqu'à publier une note interdisant toute discussion sur une maison si honorable et que l'État daignait patronner. Le Crédit Viticole s'appuyait sur un excellent système financier. Il prêtait aux cultivateurs la moitié du prix d'estimation de leurs biens, garantissait le prêt par une hypothèque et touchait les emprunteurs les intérêts augmentés d'un acompte d'amortissement. Jamais mécanisme ne fut plus digne ni plus sage. Eugène avait déclaré à son frère, avec un fin sourire, que les Tuileries voulaient qu'on fût honnête. Toutain Laroche interpréta ce désir en laissant fonctionner tranquillement la machine des prêts aux cultivateurs et en établissant à côté une maison de banque qui attirait à elle les capitaux et qui jouait avec fièvre, se lançant dans toutes les aventures. Grâce à l'impulsion formidable que le directeur lui donna, le Crédit Viticole eut bientôt une réputation de solidité et de prospérité à toute épreuve. Au début, pour lancer d'un coup à la bourse une masse d'actions fraîchement détachées de la souche et leur donner l'aspect de titres ayant déjà beaucoup circulé, Saccard eut l'ingéniosité de les faire piétiner et battre pendant toute une nuit par les garçons de recette armés de balais de bouleau. On eût dit une succursale de la banque. L'hôtel, occupé par les bureaux, avec sa cour pleine d'équipages, ses grillages sévères, son large perron et son escalier monumental, ses enfilades de cabinets luxueux, son monde d'employés et de laquais en livrée, semblait être le temple grave et digne de l'argent. Et rien ne frappait le public d'une émotion plus religieuse que le sanctuaire, que la caisse, où conduisait un corridor d'une nudité sacrée, et où l'on apercevait le coffre-fort, le dieu, accroupi, scellé au mur, trapu et dormant, avec ses trois serrures, ses flancs épais, son air de brute divine. Saccard maquignonna une grosse affaire avec la ville. Celle-ci, obérée, écrasée par sa dette, entraînée dans cette danse des millions qu'elle avait mise en branle pour plaire à l'empereur et remplir certaines poches, en était réduite aux emprunts déguisés, ne voulant pas avouer ses fièvres chaudes, sa folie de la pioche et du moellon. Elle venait de créer alors ce qu'on nommait des bons de délégation, de véritables lettres de change à longue date pour payer les entrepreneurs le jour même de la signature des traités et leur permettre ainsi de trouver des fonds en négociant les bons. Le Crédit Viticole avait gracieusement accepté ce papier de la main des entrepreneurs. Le jour où la ville manqua d'argent, Saccard alla la tenter. Une somme considérable lui fut avancée sur une émission de bons de délégation que M. Toutain Laroche jura tenir de compagnie concessionnaire et qu'il traîna dans tous les ruisseaux de la spéculation. Le Crédit Viticole était désormais inattaquable. Il tenait Paris à la gorge. Le directeur ne parlait plus qu'avec un sourire de la fameuse Société Générale des Ports du Maroc. Elle vivait pourtant toujours, et les journaux continuaient à célébrer régulièrement les grandes stations commerciales. Un jour que M. Toutain Laroche engageait Saccard à prendre des actions de cette société, celui-ci lui rit au nez en lui demandant s'il le croyait assez bête pour placer son argent dans la Compagnie Générale des Mille et Une Nuits. Jusque-là, Saccard avait joué heureusement, à coup sûr, trichant, se vendant, bénéficiant sur les marchés, tirant un gain quelconque de chacune de ses opérations. Bientôt, cet agiotage ne lui suffit plus. Il dédaigna de glaner, de ramasser l'or que les Toutain Laroche et les barons Gouraud laissaient tomber derrière eux. Il mit les bras dans le sac jusqu'à l'épaule. Il s'associa avec les Mignon, Charrier et compagnie, ces fameux entrepreneurs alors à leur début et qui devaient réaliser des fortunes colossales. La ville s'était déjà décidée à ne plus exécuter les travaux elle-même, à céder les boulevards à forfait. Les compagnies concessionnaires s'engageaient à lui livrer une voie toute faite, arbres plantés, bancs et becs de gaz posés, moyennant une indemnité convenue. Quelquefois même, elle donnait la voie pour rien. Elle se trouvait largement payée par les terrains en bordure qu'elle retenait et qu'elle frappait d'une plus-value considérable. La fièvre de spéculation sur les terrains, la hausse furieuse sur les immeubles, date de cette époque. Saccard, par ses attaches, obtint la concession de 3 tronçons de boulevard. Il fut l'âme ardente et un peu brouillonne de l'association. Les sieurs Mignon et Charrier, ces créatures dans les commencements, étaient de gros et rusés compères, des maîtres maçons qui connaissaient le prix de l'argent. Ils riaient en dessous devant les équipages de Saccard. Ils gardaient le plus souvent leur blouse, ne refusaient pas un coup de main à un ouvrier, rentraient chez eux couverts de plâtre. Ils étaient de Langres, tous les deux. Ils apportaient, dans ce Paris brûlant et inassouvi, leur prudence de champenois, leur cerveau calme, peu ouvert, peu intelligent, mais très apte à profiter des occasions pour s'emplir les poches, quitte à jouir plus tard. Si Saccard lança l'affaire, l'anima de sa flamme, de sa rage d'appétit, les sieurs Mignon et Charrier, par leur terre-à-terre, leur administration routinière et étroite, l'empêchèrent 20 fois de culbuter dans les imaginations étonnantes de leurs associés. Jamais ils ne consentirent à avoir les bureaux superbes, l'hôtel qu'ils voulaient bâtir pour étonner Paris. Ils refusèrent également les spéculations secondaires qui poussaient chaque matin dans sa tête. Construction de salles de concert, de vastes maisons de bain sur les terrains en bordure, chemin de fer suivant la ligne des nouveaux boulevards, galeries vitrées, décuplant le loyer des boutiques et permettant de circuler dans Paris sans être mouillé. Les entrepreneurs, pour couper court à ces projets qui les effrayaient, décidèrent que les terrains en bordure seraient partagés entre les 3 associés, et que chacun d'eux en ferait ce qu'il voudrait. Eux continuèrent à vendre sagement leur lot. Lui fit bâtir. Son cerveau bouillait. Il lui proposait sans rire de mettre Paris sous une immense cloche pour le changer en serre chaude et y cultiver les ananas et la canne à sucre. Bientôt, remuant les capitaux à la pelle, il eut 8 maisons sur les nouveaux boulevards. Il en avait 4 complètement terminées, 2 rue de Marignan et 2 sur le boulevard Haussmann. Les 4 autres, situées sur le boulevard Malesherbes, restaient en construction. Et même une d'elles, vaste enclos de planches où devait s'élever un magnifique hôtel, n'avait encore déposé que le plancher du premier étage. À cette époque, ses affaires se compliquèrent tellement. Il avait tant de fils attachés à chacun de ses doigts, tant d'intérêts à surveiller et de marionnettes à faire mouvoir, qu'il dormait à peine 3 heures par nuit et qu'il lisait sa correspondance dans sa voiture. Le merveilleux était que sa caisse semblait inépuisable. Il était actionnaire de toutes les sociétés, bâtissait avec une sorte de fureur, se mettait de tous les trafics, menaçait d'inonder Paris comme une mer montante, sans qu'on le vît réaliser jamais un bénéfice bien net, empocher une grosse somme luisant au soleil. Ce fleuve d'or, sans source connue, qui paraissait sortir à flots pressés de son cabinet, étonnait les badauds, et fit de lui, à un moment, l'homme en vue auquel les journaux prêtaient tous les bons mots de la bourse.